Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, le Conseil de sécurité a discuté aujourd'hui de la situation en République démocratique du Congo. À Lyon, en France, le Fonds mondial contre le VIH, la tuberculose et le paludisme a réuni ses bailleurs de fonds. À Genève, le comité exécutif de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés discute de la question du rapatriement volontaire. Et en dossier, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs d'Afrique se félicite que les pays de cette région soient plus que jamais résolument engagés dans une marche vers la stabilité. Le Conseil de sécurité de l'ONU a fait le point ce matin sur la situation en République démocratique du Congo. Dans un exposé par visioconférence, l'envoyé de l'ONU dans ce pays, Leila Zerougui, s'est félicité des nouvelles dynamiques positives à la suite de la transition pacifique du pouvoir. On l'écoute.
De nouvelles dynamiques positives, susceptibles à terme de mener le Congo vers une paix durable et la stabilité, se mettent en place suite à la transition pacifique du pouvoir que nous avons connu en ce début d'année. Des initiatives diplomatiques régionales ont été lancées. Un gouvernement de coalition a été mis en place avec un programme ambitieux qui vise à stabiliser le pays, améliorer sa gouvernance et le mener vers le développement économique. Il incombe aujourd'hui à l'ensemble de la classe politique congolaise de soutenir ces dynamiques et d'œuvrer à leur consolidation. La mise en place de l'Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées provinciales, dont les sessions parlementaires ont ouvert la semaine dernière, et comme je viens de le dire, la formation récente du gouvernement, marque le point de départ vers la consolidation de la démocratie dans le pays.
À l'ouverture de sa 6e conférence de reconstitution des ressources, le Fonds mondial contre le VIH, la tuberculose et le paludisme a annoncé qu'une série de partenaires du secteur privé allait encourager l'innovation pour en finir plus rapidement avec ces trois maladies infectieuses les plus meurtrières de la planète. Depuis sa création, le Fonds a réussi à sauver 32 millions de vies. Cette conférence, qui se tient à Lyon en France, vise à recueillir au moins 14 milliards de dollars pour en sauver 16 millions de plus. On écoute Françoise Vanny, chargée des relations extérieures du Fonds mondial.
Alors actuellement, nous sommes en pleine campagne de reconstitution de nos ressources. Donc on est en train de récolter les ressources dont on aura besoin pour le cycle 2020-2021-2022. On travaille par cycle triennaux. Donc ce qu'on demande à la communauté internationale, à tous les partenaires, c'est vraiment d'accélérer le mouvement. Parce que les épidémies ont leur logique propre. Et si on n'accélère pas les efforts qu'on est en train d'accomplir sur les trois maladies, et en fait, on ne va pas rester immobile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. Les épidémies, elles fonctionnent comme ça. Donc il est extrêmement important d'accélérer le mouvement, sinon on risque de perdre tous les progrès engrangés au cours des 17 dernières années. Et pour cela, on a indiqué qu'on avait besoin de récolter 14 milliards de dollars pour le cycle triennal qui s'annonce. On a déjà eu une très belle réponse de la part de grands donateurs qui ont déjà fait leurs promesses de dons. Et on a la grande conférence de reconstitution sous l'égide du président Macron pour, on l'espère, obtenir ces résultats, pour accélérer le mouvement et puis pour atteindre finalement l'objectif de 2030, hein, qui est celui d'éliminer ces trois grandes pandémies qui sont encore celles qui tuent le plus, hein, en termes de maladies infectieuses au niveau mondial, et puis atteindre l'objectif de santé pour tous, qui est l'objectif numéro 3.
La 70e session du comité exécutif de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés continue ses travaux à Genève. Un des thèmes abordés, la question du rapatriement volontaire. Le HCR a affiché sa disponibilité à faciliter le dialogue et des solutions par des approches tripartites. Dans sa présentation, le Togo a mis l'accent sur le retour volontaire des réfugiés ivoiriens. On écoute les réactions du chef du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Philippe Ougrandi.
Je voudrais remercier le Togo pour avoir touché au thème important des solutions aux problèmes de réfugiés dans sa région et notamment aux solutions envisagées pour les réfugiés ivoiriens. Un sujet important, il y a une possibilité de conclure cette complexe question des réfugiés ivoiriens commencée avec le conflit il y a quelques années. Et je pense que les efforts dans les pays qui encore hébergent des réfugiés ivoiriens vont être nécessaires pour qu'on puisse clôturer ce problème dans les plus brefs délais. Et pour ce qui est du Tchad également, je pense que c'est important qu'il y ait des efforts à travers un cadre tripartite avec la République centrafricaine. J'espère dans le futur avec le Soudan aussi, on a déjà eu du rapatriement, pour qu'au moins une partie de ce fardeau puisse être allégée. Il s'agit s'agit d'un fardeau important, c'est les réfugiés soudanais, centrafricains, du Nigeria, dans la région du lac Tchad. Donc nous apprécions vos efforts. Nous appuyons beaucoup votre appel pour qu'il y ait plus de réinstallation, pour qu'il y ait un vrai partage de responsabilités. Nous sommes contents que vous puissiez bénéficier des allocations qui viennent à travers l'application du pacte global, le CRRF. Nous allons continuer à travailler avec vous pour que ces solutions soient trouvées.
Les dynamiques positives en République démocratique du Congo semblent s'étendre à l'ensemble de la région des Grands Lacs d'Afrique. Selon l'envoyé spécial des Nations Unies pour cette région, Hoang Cha, ces pays sont plus que jamais résolument engagés dans une démarche vers la stabilité. Pour mieux comprendre, Christina Silvero a profité du passage récent de Hoang Cha à New York pour le recevoir dans nos studios et lui demander quels sont les signes qui lui permettent d'afficher cet optimisme.
Les signes encourageants, il y en a plusieurs. C'est l'élection du président Tshisekedi pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Depuis son indépendance, une passation des pouvoirs dans des conditions pacifiques. Et le président Tshisekedi, dès son accession au pouvoir, a affiché une ferme volonté politique d'engager des réformes à l'intérieur du pays pour restaurer l'autorité de l'État en RDC sur toute l'étendue du territoire. C'est aussi une diplomatie d'ouverture à l'endroit des pays voisins, surtout des autres pays clés de la région des Grands Lacs, l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola. Et aujourd'hui, nous constatons que tous ces pays clés de la région des Grands Lacs s'engagent dans la même volonté politique de mieux assurer la paix et la sécurité et surtout de mieux coopérer pour s'engager ensemble dans un processus de paix avec une approche d'intégration politique et économique. Cette situation encourageante nous donne une opportunité très favorable à saisir. Bien sûr, les premiers efforts reposent sur les épaules des pays clés de la région, mais la communauté internationale, les Nations Unies, doivent accompagner ces pays pour saisir cette opportunité, pour mieux assurer la paix et la sécurité et pour encourager et accompagner ces pays à s'engager résolument dans ce processus de développement ambitieux.
Qu'en est-il des forces négatives et des groupes armés qui opèrent dans la région ?
Malgré cet élan favorable, il faut avouer que les enjeux sont encore nombreux, il y a encore beaucoup de défis. Vous avez évoqué l'activisme de ces groupes armés, de ces forces négatives qui sévissent toujours à l'est de la RDC. Mais aujourd'hui, je vois une meilleure mobilisation au niveau des pays concernés pour travailler en solidarité, en coopération, pour assurer une neutralisation plus efficace de ces forces négatives. Je pense que rapidement, les pays clés de la région des Grands Lacs vont se voir monter d'autres réunions pour assurer une meilleure coordination. Et dans ce processus, les Nations Unies sont là aussi pour travailler en étroite collaboration avec ces pays.
Alors, lors de l'Assemblée générale, le président Tshisekedi a affirmé du haut de la tribune la volonté d'ouvrir son pays au monde en permettant l'exploitation réglementée de son sous-sol contre un accompagnement à l'industrialisation. Alors, est-ce que c'est vraiment réaliste? Quelles seraient les prochaines étapes et quel pourrait être votre rôle s'il y en a un?
La région des Grands Lacs est l'une des régions les plus richement dotées par la nature. Le contraste aujourd'hui est fort entre cette richesse et l'état de développement socio-économique dans lequel se trouvent les pays, surtout la RDC. Aujourd'hui, il faut avouer qu'il existe une exploitation, un commerce illicite de ressources naturelles. On peut en tirer des profits à court terme. Mais l'intérêt à moyen terme et à long terme se trouve dans un développement avec une approche d'intégration politique et économique, avec une meilleure mise en valeur de ces ressources naturelles et une meilleure répartition, une répartition plus équitable des bénéfices dont nous pourrions tirer de ces exploitations. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que tous les pays de la région des Grands Lacs sont prêts à mieux se concerter, à monter une collaboration plus structurée pour parler de ce dossier et chercher une solution qui permettra à tous les pays de s'engager dans un processus de coopération économique pour assurer une meilleure exploitation et une meilleure répartition.
Voilà la fin de ce journal d'ONU Info. À retrouver sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.